on va essayer en quelques instants de la découvrir un petit peu plus et de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'il se cache exactement derrière Akina. Alors, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous présenter Akina, nous parler de cet univers, mais vraiment en quelques mots pour commencer.
D'accord. Donc Akina, le mot Akina vient de aqua in aqua, dans l'eau, donc c'est une planète d'eau. Ce qui pour moi est le plus important dans ce projet, c'est l'idée de l'apesanteur, donc du flottement, du bien-être. Il y a l'apesanteur sous-marine et l'apesanteur aérienne. Donc mes êtres se déplacent sur cette planète dans l'apesanteur. Et ce que j'aurais envie, c'est également de vous transmettre ce sentiment d'apesanteur à vous. En gros, l'idée, c'est de stimuler vos cinq sens. Il y a de l'odeur, il y a des bonbons pour le goût, il y a du son. L'idée, c'est de pouvoir toucher les sculptures, il y a la vue. Donc, je suis convaincue personnellement qu'en stimulant les cinq sens, qu'on éveille le sixième, ou plutôt le premier sens, qui pour moi est l'imagination, le fantastique, l'ouverture sur d'autres mondes.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse d'Akina, en fait ? Alors, tu es une artiste contemporaine qui a suivi des cursus scolaires en Suisse, en l'occurrence, hein, d'où tu es originaire. Mais donc, tu as suivi les beaux-arts donc, de Berne, Genève, un passage par San Francisco aussi pour de la vidéo. Et de toutes ces pérégrinations, tu nous as ramené à Akina. Alors, comment on arrive, disons, comment on passe du dessin à la vidéo et ensuite à de telles sculptures ?
Alors, du dessin, en fait, j'en ai rarement fait, et même pour mes sculptures, il y a rarement un croquis avant mes sculptures. Même avant de faire les écoles, je faisais des petits projets qui étaient des petits mondes, des petits carrousels ou des petits cinémas aux cinq sens. Donc l'idée des sens a déjà été présente avant les écoles. Je pense que les écoles m'ont permis d'être en contact, d'échanger avec les autres et puis de trouver le temps pour faire des recherches sur les matières. Mon tout premier travail à l'École des Beaux-Arts était un projet en fait, où j'ai juste façonné l'argile dans mes mains et puis que je l'ai moulée dans différentes matières, du sucre en passant par le plomb ou plein d'autres choses, et par la suite j'ai fait des installations. Je pense que la source, ce qui a vraiment nourri Akina, c'est mes voyages personnels. Donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire de la plongée. C'est sûr qu'en plongeant en fait, ça me nourrit énormément. Il y a plein d'images qui défilent par la suite. Mais je pense que si en général, c'est les échanges avec les gens, le fait de rencontrer d'autres cultures, et puis voilà, c'est de vous faire voyager vous aussi. Je pense que ce qui nourrit, c'est les voyages, et puis le fait de trouver le temps de pouvoir plonger soi-même dans des mondes qui sont au fond de nous.
Alors, tu parlais d'apesanteur tout à l'heure, nous faire partager cette expérience de lévitation presque en caisson d'immersion, parce que entre la plongée et puis l'apesanteur, je me dis, bah, tiens, c'est un caisson d'immersion. Akina, on va essayer de s'immerger dans ce monde et nous transformer en méduse sensible. Donc, cette idée d'apesanteur, en fait, je la mets en parallèle en fait, avec ton expérience qui a commencé dans le béton. Alors ça, c'est complètement fou pour moi. Comment tu as travaillé en premier sur des sculptures à base de matériaux lourds, quoi, comme le béton, comme les moulages en argile, les choses comme ça. Et là, tu nous parles d'apesanteur. Alors, est-ce que Akina est le lien entre ces deux mondes?
Alors, la matière, c'est une chose. Et puis, finalement, ce qu'on en fait, c'est encore une fois une autre. Si je pense à la toute première sculpture que j'ai faite en béton, c'était effectivement une surface lunaire, en fait. Donc, la Lune, les autres planètes, où on retrouve évidemment aussi l'apesanteur, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Donc, l'idée d'autres planètes, d'ailleurs, de l'univers. C'est vrai que mes sculptures, forcément, elles sont grandes, elles ont un certain poids, elles sont lourdes. Et c'est vrai que dans mon travail quotidien, qui a à voir avec avec certains poids, je suis plutôt dans la pesanteur. Mais le résultat final avec les sculptures, c'est vrai que c'est le sentiment de légèreté que j'ai envie de transmettre. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre le quotidien dans lequel je vis avec la matière, qui est une matière de pesanteur, et puis ce que j'ai envie de partager, qui est finalement la pesanteur. C'est vrai qu'il y a la chance, je trouve que la vidéo et la photo aussi permet de de jouer avec cette idée d'apesanteur. Souvent, j'aime bien aussi filmer mes sculptures. Par exemple, j'ai fait une sculpture avec un paysage volcanique. Je joue avec des miroirs qui permettent une ouverture d'un reflet jusqu'à l'infini. Et en filmant ces paysages, bah, ça donne un effet d'apesanteur. On peut aller se balader sur ces paysages. Et puis, ça permet aussi de jouer avec l'échelle, quelque chose qui, à la base, est plutôt petit. Sur le format vidéo, tout d'un coup, ça peut devenir quelque chose d'un réel paysage.
Moi, quand je t'entends, ce qui revient souvent, c'est le lien, c'est la transmission, c'est essayer d'être le médium entre soit deux mondes, soit deux matériaux, hein, puisque passer du béton donc à l'eau, en l'occurrence. Avant de commencer à créer Akina, donc tu as parlé de béton, donc ces matières coulées. Akina, donc c'est à base de résine. Tu peux nous parler du processus simple pour là simplement pour qu'on ait un aperçu, je dirais, de ta journée de travail. Pourrais-tu nous expliquer le processus simplifié de la création d'un moule, en fait, de la création d'une sculpture de Drakina, par exemple? Comment tu procèdes?
D'accord. Donc moi, je travaille toujours dans l'argile. L'argile, c'est une matière que j'aime beaucoup. C'est une matière souple, une matière tendre, sensuelle, on pourrait dire. Elle permet de rajouter, d'enlever, de graver, etc. Donc une fois que j'ai modelé en argile, je fais un moule en silicone. Le silicone, c'est une matière souple. Ensuite, il faut faire un moule rigide autour de ça pour le maintenir. Et ensuite, je coule avec de la résine, justement, il faut s'imaginer de la résine, c'est un peu comme de la farine et du lait. On mélange les deux avec le pinceau, on applique à l'intérieur. Et ensuite, il faut mettre la fibre, qui est un peu pas très marrant pour travailler parce que ça pique. Et puis, c'est vrai qu'en gros, il y a pas mal de poussière. Dans la résine, il y a de la poudre de bronze, donc moitié résine, moitié poudre de bronze. Et puis ensuite, donc, il faut poncer cette résine afin de faire sortir le bronze et puis d'avoir cet aspect-là. Si je prends l'exemple de Drakina, j'ai commencé par une pâte. Le dragon, il a quatre fois la même pâte. Il faut toujours trouver un peu des solutions aussi économiques, parce que c'est vrai que le silicone coûte très cher. Donc, je commence par une pâte que je moule quatre fois. Je rajoute le corps. Ensuite, j'ai fait la queue qui fait en même temps le cou. Et puis, pour finir, je rajoute la tête et les ailes. En gros, la partie créative, qui est la partie dans l'argile, elle prend peut-être presque un quart, voire un tiers du travail, donc c'est pas autant que ça. Ce qui prend beaucoup de travail, c'est le moulage dans les résines qui...
Et le nombre d'heures de travail, par exemple, pour une créature comme Drakina, ça représente quoi?
Je dirais un travail à plein temps, je pense, pour Drakina, c'est environ 3 mois.
Oui, donc je reste perplexe quand je vois les autres sculptures aussi, donc ça fait quelques années que tu te promènes dans Akina.
Oui, je pense que ça fait environ il y a trois ans que j'ai commencé. Bon, j'ai un autre métier à côté qui me permet de vivre, qui me permet de financer l'atelier ainsi que la matière pour mes sculptures, parce que c'est vrai que c'est plutôt cher de pouvoir réaliser des sculptures de cette taille-là.
Donc ce processus est appelé à continuer. Akina n'en est qu'à ses débuts. Tu viens de découvrir ce monde, tu nous le montres un petit peu, tu en es sa guide officielle, sa première guide officielle. Mais ensuite, donc, ce monde, ça va être à nous de l'explorer. Il y a des clés donc, pour pouvoir y rentrer par le biais des cinq sens dont tu parlais. Mais la finalité, c'est quoi? C'est nous montrer qu'en fait, il faut garder une part en soi de foi, de savoir que Akina existe dans chacun d'entre nous et de le préserver. Comment aborder en fait Akina? C'est pas juste un monde fait de sculptures, quoi. J'ai l'impression que c'est bien au-delà de ça.
Alors, je pense déjà le public qui est là ici, c'est un public qui est très ouvert à ces différents mondes qui existent en nous et qui existe certainement aussi réellement, en tout cas moi j'y crois. Avec Akina, je dirais que c'est une petite porte d'ouverture sur un monde, sur un monde que je nourris moi, mais qui est ouvert, que vous, vous le développez vous-même. Il y a des traces, il y a des clés. Par exemple, mes sculptures, elles ont aussi des gravures, il y a des signes, un langage qui est gravé. C'est à vous de le décoder et puis à lire ce qu'il pourrait signifier. Je pense effectivement qu'en parlant des sens, j'ai dit, j'aimerais développer le premier sens. Donc je suis convaincue que c'est ce fameux premier sens qu'on a tous à notre naissance et qu'on perd parfois un peu à travers la société, à travers de tout ce qui nous entoure. C'est vrai que personnellement, je pense que c'est dans des moments où on se retrouve par exemple dans la nature ou en plongeant ou dans un lieu tout simplement où on se sent bien. Qu'on est capable de rentrer dans ces mondes et de les développer. Et c'est vrai que des fois, un peu la vie quotidienne dans ces villes, avec toutes ces influences, c'est plus difficile. La société aussi développe des filtres qu'on se met dessus. Et puis, de temps en temps, il faut essayer de mettre ces filtres de côté et de traverser le rideau et puis de voir derrière et de faire vivre à nouveau ces mondes qui finalement sont là. Peut-être je pourrais rajouter ma conviction que je pense qu'on vient tous de la même poussière, donc on est tous reliés d'une certaine manière. Et ce que j'ai envie, c'est de trouver une sorte de communication. Ben déjà, entre mes sculptures, ils communiquent à travers les lumières. Je pense aussi à l'idée de la télépathie. Mes êtres sont curieux d'entrer en contact avec vous. Donc, si vous êtes ouvert, vous, à une sorte de communication, il suffit juste à se brancher sur certaines ondes. Et je pense qu'on serait capable d'avoir une sorte de communication universelle entre nous, entre les humains, entre les êtres, entre les animaux, mais aussi à travers le temps. Donc on va prendre des milliards d'années en arrière quand finalement la vie a pris lieu. Donc en gros, pour résumer, je pense qu'on est tous connectés à travers j'ai oublié le mot,
une même entité,
une conscience universelle, ouais, on va dire.
Et alors, vu que, disons, en tant qu'adulte, on s'est fait, je dirais, altéré par toutes les conventions sociales et autres, donc ton monde s'adresserait plus à quelqu'un, soit qui a pu garder sa part d'enfant, soit aux enfants eux-mêmes, en fait ?
Non, pas du tout, au contraire, à tout le monde, et peut-être carrément aussi aux personnes qui ont trop de filtres devant eux, c'est d'essayer de les mettre à nouveau un peu de côté, et puis de permettre de rentrer dans ce monde.
C'est une immersion thérapeutique, alors, se libérer un peu de
oui,
toutes ces conventions.
C'est vrai qu'il y a ce que j'ai envie avec mon travail, c'est de vous faire voyager un petit moment, de faire partager le sentiment d'apesanteur, de bien-être, et puis de vous pousser dans votre imaginaire, que vous avez certainement déjà tous, sinon vous ne serez pas là, je pense.
Alors, tu es une artiste contemporaine, donc qui a suivi un cursus contemporain, et tu m'as raconté une petite histoire que j'ai trouvée totalement savoureuse, parce que là on parle d'immersion, tu as construit un monde dans lequel le public va s'immerger, mais toi tu as fait ta propre expérience d'immersion, et j'aimerais bien que tu nous racontes ça, parce que j'ai vraiment trouvé ça purement croustillant. Donc ton immersion en tant que cosmonaute visitant les terriens, tu peux nous raconter ça ?
Avec une amie artiste, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait toujours envie d'être. Donc mon amie, elle avait envie d'être un ours polaire, et puis moi c'est vrai que j'avais toujours envie d'être astronaute par rapport à la pesanteur, l'univers, la lune, etc. Donc on a passé quelques après-midi à faire des costumes, elle d'un ours polaire et puis moi d'une astronaute, et on s'est amusé à nous promener dans les villes de Genève le soir, et c'était marrant de voir les réactions des gens autour de nous. Quand une personne était seule, confrontée à nous, bah, elle avait plutôt un peu peur, elle regardait plutôt par terre. Quand c'était un groupe, bah, elle rigolait, elle nous suivait. Et puis, c'est vrai qu'on essayait toujours de ne pas nous faire reconnaître. Donc, on rentrait par des petites portes de derrière. Et puis, une fois à minuit, quand on est rentré, on a pris l'ascenseur au sous-sol. Et puis, en ouvrant la porte, bah, il y avait un securitas qui était là et qui faisait un peu un drôle de visage. Et puis, une autre fois, par exemple, en plein été, on est allé sur le Jungfraujoch où il y avait de la neige. Donc, avec ça, ce que je veux dire, c'est que des fois, il suffit de très peu, de mettre une lunette ou un costume, et puis on est déjà sur une autre planète. C'est sûr que le décor joue avec. Donc voilà, des fois, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir partir sur une autre planète et de s'imaginer des choses.
Alors, c'est vraiment l'expérience totale. Donc, tu essaies de, par l'immersion, soi-même ou par un monde dans lequel on va pouvoir s'immerger, de toucher aux cinq sens en fait. Et j'ai presque l'impression que c'est même sur plusieurs supports, puisque il y a les sculptures, il y a la vidéo, il y a vraiment tout ton travail comme ça de mise en situation d'un monde cohérent, parce que moi je le trouve vraiment extrêmement cohérent, sachant qu'il y a finalement peu de pièces, hein, finalement, et que c'est presque une création intuitive, puisque tu disais toi-même que donc, les sculptures n'étaient ni dessinées, ni pensées vraiment très en avance, c'était presque intuitif, mais malgré cette intuition qui te faisait avancer, il y avait quand même une cohérence très forte qui se dégageait de tout ça. Et moi, je t'avoue que lorsque j'ai reçu le dossier, je me suis dit, waouh, un dossier sur du vrai papier. Parce que je vous inviterai à regarder les pages en fait, qui composent ce dossier. Chaque page est dessinée, chaque page est retravaillée, chaque page est altérée. Le papier, c'est du vrai vieux papier travaillé. Et je me suis dit, ouais, mais ce serait complètement génial qu'il y ait aussi un support livre à tout ça. Parce que ça nous permettrait d'emporter Akina à la maison. Ce serait génial. Parce que là, bon, on a l'expérience, mais après, par exemple, après l'exposition, on ne pourra plus profiter d'Akina. Donc ça pourrait être une piste, soit le livre, soit par exemple même un site internet dans lequel les internautes pourraient déposer leurs propres croquis de créatures rencontrées le soir dans Genève, par exemple, ou autre. Donc est-ce que ça pourrait se développer de cette façon-là? Est-ce que ça pourrait vraiment devenir une espèce de communauté bleue?
Je trouve que c'est une très belle idée et je t'en remercie. Je vais y réfléchir et puis... Après, ça dépend aussi un peu de la suite que je vais avoir dans ce travail. Et puis, si j'ai des possibilités pour d'autres expositions, s'il va y avoir une suite. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle idée. Et puis, j'aimerais bien, dans la mesure du possible, pouvoir faire quelque chose comme ça.
Oui, je suis sûr que ça ne peut que se développer, parce que de toute façon, ils ne vont pas rester orphelins, là, ces pauvres créatures, là, orphelines. Est-ce que tu peux nous présenter chacune d'elles, en fait?
D'accord, donc je vais commencer par la panthère, qui était vraiment une sculpture très spontanée et qui finalement, je pense, qui était le déclencheur pour ce monde-là. Donc les deux premières sculptures qui sont la panthère et la déesse sont pour moi un peu au passage de notre planète Terre, donc la panthère qui vient de notre planète et puis la déesse qui est mi-humain et en même temps qui porte déjà le casque d'apesanteur de la planète Akina. Donc eux, ils font un peu le passage entre nous et puis entre Akina. Ensuite, j'ai commencé par le poulpe qui a le nom Akulpo, qui a aussi une sorte de casque un peu aérien qui lui permet de naviguer plus facilement dans l'apesanteur. Suite au poulpe, j'ai fait Drakina, le dragon qui se déplace dans l'apesanteur aérienne, mais aussi sous-marine. Et puis pour finir, il y a eu Aquarbro, qui est entre un arbre et entre un animal. Donc ce côté animal-végétal, cet entre-deux m'a toujours fascinée. C'est surtout aussi la méduse que je trouve assez incroyable, qui est un être mi-animal, mi-végétal, qui est comme une sorte de pulsation, juste une sorte de cœur qui se déplace en apesanteur. Les liens entre les sculptures, c'est justement leur casque aérien, c'est les billes qui sont un peu comme des gouttes d'eau, c'est les yeux qui sont finalement un peu comme des planètes en soi. L'arbre, si on regarde bien, ses racines peuvent faire penser à des pattes, les branches peuvent faire penser à des bras, et puis il a deux yeux aussi, il a des ventouses qui font penser aux poulpes, les sortes de, en fait, ce côté un peu végétal, à moitié serpent, à moitié végétal, en même temps ça peut presque être une... le mot il m'a échappé, mais c'est un peu cet entre-deux en fait qui m'a intéressé dans cette dernière sculpture, donc entre l'animal et entre le végétal.
Et par rapport à l'arbre lui-même par exemple, les tiges lumineuses donc sont composées de fibres optiques et les grappes elles-mêmes en fait ont été faites pour ça, ou est-ce que tu t'amuses à récupérer plein d'objets hétéroclites pour pouvoir les intégrer de cette façon dans les sculptures? Comment ça se passe le processus à ce moment-là? Est-ce que tu récupères des objets ou est-ce que tu fais faire de la création, par exemple de verre soufflé? Je ne sais pas comment.
En fait, à la base, j'essaye d'avoir un peu des liens. Donc, ce que j'ai utilisé pour toutes les sculptures, c'est des billes, tout simplement des billes. Donc, j'ai collé les billes et puis ça a donné les grappes. les billes qui sont présentes dans le casque du poulpe, dans les ventouses du poulpe et puis aussi dans le dragon. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse dire que j'utilise de la récupération, c'est vraiment plutôt des choses que je recherche.
Là, ça va être intéressant. On a un public cobaye parfait qui s'approche des sculptures d'Akina. Attention, que va-t-il se passer? Première expérience. Non, non, ils peuvent toucher, c'est fait
Donc vous
exprès.
pouvez
Ils peuvent
toucher, c'est
toucher,
fait
allez-y,
pour.
ils peuvent pas monter dessus, mais allez-y,
L'arbre, il est
allez-y.
un peu plus
Laissez-les
fragile, mais
faire, il y a
c'est
des
fait pour.
bonbons.
Ils aiment bien être caressés, les sculptures.
Expérience. Ah, tu vois.
Il va bientôt se mettre à voler, tellement il est content, le dragon.
Repartir même avec tous les bonbons.
Bon, après, il y a un autre aspect que je dois toujours réfléchir, qui est un aspect technique, c'est à cause de la taille des sculptures. Donc, je dois les faire démontables. Donc, au dragon, on peut lui enlever les ailes et la queue, et puis le poulpe, on peut lui démonter les pattes. L'arbre, c'est un peu plus difficile à transporter. Malheureusement, il a perdu la tête une ou deux fois, j'ai dû la recoller. Donc, c'est vrai que techniquement, des fois, il y a des choses, il faudrait bien réfléchir dès le début.
Tu parlais de tout à l'heure de certaines des créatures. Moi, il y a une créature où je me dis, waouh, j'aimerais vraiment la voir sortir d'Akina. C'est effectivement la méduse. Tu parlais de résine, donc j'imagine une méduse transparente avec les billes bleues en question. J'aimerais vraiment la voir, celle-ci.
J'ai pensé à ça. Il y a des résines transparentes. Malheureusement, celle que j'ai utilisée pour les ailes, j'ai développé une grande allergie, donc je dois faire attention et puis peut-être pas trouver autre chose.
Polyester.
Il y a aussi l'idée des tissus et puis par rapport à Méduse, j'ai eu l'idée éventuellement de jouer avec des tissus, des lumières et puis aussi de l'air pulsé, tu vois, quelque chose de gonflable ou qui se dégonfle ou des plastiques, ce genre de
Une
choses.
méduse géante au-dessus de Genève, en fait, c'est
Voilà,
ça
ce
qui
serait
est.
pas mal.
Tous les cas, moi je me répète, mais effectivement, je trouve ce monde vraiment très très cohérent. J'aimerais vraiment que l'on puisse vivre cette expérience d'immersion totale, une pièce fermée, quelque chose comme ça. Donc, tiens-nous au courant des prochaines expositions d'Akina.
Merci.
Moi, je te remercie en tous les cas de nous avoir fait découvrir ce monde. J'espère que tu auras des questions, des interrogations sur ces créatures et sur le meilleur moyen de les aborder sans les froisser. Et merci à toi en tous les cas.
Merci à toi, Gilles, et puis merci au public d'être venu et je vous souhaite une bonne suite du festival. Au revoir.